Chapitre 1. Mise en garde contre des enseignements sensationnels et une religion émotive. Danger d'idées spéculatives. Le peuple de Dieu va connaître un temps de détresse. Cependant, il ne faut pas l'entretenir constamment de ce sujet et lui faire goûter un temps de détresse par anticipation. Un triage doit se faire parmi le peuple de Dieu, mais ce n'est pas là la vérité présente à donner à l'Église. Cela viendra après que la vérité aura été rejetée. Les prédicateurs ne doivent pas s'imaginer qu'ils sont en possession d'idées avancées et merveilleuses. Que ceux qui ne les accepteront pas seront repoussés dehors, et qu'un peuple nouveau se lèvera pour aller en avant et toujours plus haut vers la victoire. L'objectif de Satan est atteint aussi bien quand les hommes courent devant le Christ et s'attribuent une œuvre qui ne leur a jamais été confiée, que quand ils demeurent dans l'état de tiédeur de Laodicée, se croient riches et comblés, n'ayant besoin de rien. Ces deux classes de personnes constituent également des pierres de scandale. Quelques zélateurs qui se fatiguent à chercher de l'originalité ont commis une grave erreur en s'efforçant de présenter au public des choses saisissantes, merveilleuses, ravissantes, des choses que tout le monde ne comprend pas, pensent-ils, alors que souvent ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils disent. Ils étalent leurs élucubrations sur la parole de Dieu, avançant des idées qui ne sont d'aucune utilité à eux ou aux églises. Ils peuvent exciter momentanément les imaginations, puis se produit une réaction et ces mêmes idées deviennent un obstacle. On confond foi et fantaisie et ces vues sont susceptibles d'aiguiller les esprits dans une fausse direction. Qu'on se contente de se nourrir des simples déclarations de la parole de Dieu. Il y a danger à se perdre dans des idées qui ne sont pas clairement présentées. Nos églises courent un danger, c'est que l'on apporte des choses étranges, qui jettent de la confusion dans les esprits et ne communiquent aucune force, cela au moment même où l'on a besoin d'être fort spirituellement. Il faut un bon discernement pour que des nouveautés étranges ne soient pas associées à la vérité comme faisant partie du fardeau du message qui doit être donné maintenant. Ce sont les messages que nous avons donnés au monde jusqu'ici qui doivent être présentés avec force, en appel fort canvassé, 1, 2. Le charme qui se dégage de théories nouvelles. Sous les aspects les plus divers, le fanatisme et des théories erronées, ayant l'apparence de la vérité, seront présentés au peuple de Dieu. Il en résultera ceci, des sentiments seront engendrés qui n'ont rien de commun avec la vérité pour ce temps-ci. Quiconque s'imagine pouvoir, avec la force que lui donnent ses décisions, avec ses facultés intellectuelles unies à une science supposée, entreprendre une œuvre qui fera la conquête du monde, finira par se trouver un jour sous les ruines de ses propres spéculations et comprendra alors pourquoi il en est là. D'après la lumière que le Seigneur m'a donnée, il s'élèvera des hommes enseignant des choses perverses. Oui, déjà ils ont opéré et parlé de choses que le Seigneur n'a jamais révélées, abaissant la vérité sacrée au niveau de choses profanes. On a voulu imposer, et l'on continue à le faire, des faussetés imaginées par l'homme, qui n'ont rien de commun avec la vérité. On inventera des règles qui n'en sont pas, afin que lorsque la vraie pierre de touche sera appliquée, on la confonde avec les critères sans valeur d'invention humaine. On peut s'attendre à ce que n'importe quoi soit introduit et mélangé à la saine doctrine. Un bon discernement spirituel, avec l'onction céleste, permettra de distinguer le sacré du profane qui s'introduit pour confondre la foi et un jugement saint et amoindrir la grande vérité qui doit mettre le monde à l'épreuve. Jamais comme aujourd'hui la vérité n'a été présentée sous un faux jour, amoindrie, discréditée par de méchantes disputes humaines. Des hommes sont arrivés avec une masse hétérogène d'hérésies qu'ils nous offrent comme des oracles divins. Les gens sont charmés par d'étranges nouveautés et leur inexpérience ne leur permet pas de discerner la nature des idées qui leur sont proposées. Attribuer une grande importance à ces idées et essayer de les associer aux oracles divins n'en font pas la vérité. Cette situation constitue un reproche au niveau déplorable de la piété des églises. Des hommes décidés à offrir quelque chose d'original vont évoquer des choses nouvelles et étranges et sans réflexion s'installer dans des théories instables, présentées dans une combinaison de théories dites précieuses, dont on aura fait une question de vie ou de mort. Il faut beaucoup de discernement. À mesure que nous approchons du temps où les principautés et les iniques puissances spirituelles dans les lieux célestes déclareront la guerre à la vérité, où le pouvoir séducteur de Satan prendra de telles proportions que les élus mêmes pourraient être séduits, il faut que notre discernement soit éclairé d'en haut pour que nous sachions quel est l'esprit qui vient de Dieu et que nous n'ignorions pas les artifices de Satan. L'effort humain doit s'associer à la puissance divine si nous voulons être capables d'accomplir l'œuvre qui doit s'achever en notre temps. Le Christ s'est servi du vent pour illustrer l'Esprit de Dieu. Tout comme le vent souffle où il veut, sans que nous puissions dire d'où il vient et où il va, ainsi en est-il de l'Esprit de Dieu. Nous ignorons en qui il va se manifester. Je ne prononce pas mes propres paroles quand je dis que l'Esprit de Dieu abandonnera ceux qui au jour de l'épreuve et de l'opportunité n'auront pas su distinguer la voix de Dieu ou apprécier les appels du Saint-Esprit. À la 11e heure, des milliers de personnes verront et reconnaîtront la vérité. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin celui qui répand la semence. L'Église sera surprise par la rapidité avec laquelle s'effectueront les conversions, et seul le nom de Dieu sera glorifié. Le fanatisme reparaîtra au milieu de nous. Le fanatisme reparaîtra même dans notre milieu. Des séductions de nature à égarer, si possible, les élus eux-mêmes, se produiront. Si l'on pouvait remarquer des inconséquences notoires et des mensonges évidents dans de telles manifestations, les avertissements sortant de la bouche du grand instructeur seraient superflus. Cette mise en garde est rendue nécessaire par le nombre et la variété des dangers futurs. Voici pourquoi je tire la sonnette d'alarme, éclairé par le Saint-Esprit, il m'est donné de voir ce que mes frères ne savent pas discerner. Il n'est peut-être pas indispensable que je mentionne d'une manière particulière tous les aspects de l'erreur qu'il faut éviter à tout prix. Il me suffit de vous dire. Soyez sur vos gardes, agissez comme des sentinelles fidèles, empêchez le troupeau d'accepter sans discernement tout ce qu'on offre comme venant de la part du Seigneur. Si nous nous efforçons de provoquer des émotions, nous en aurons à satiété et nous en serons débordés. Prêchez la parole avec calme et clarté. Notre tâche ne consiste pas à créer des sensations. Seul le Saint-Esprit de Dieu est capable de susciter un saint enthousiasme. Laissons agir Dieu. Que le serviteur humain marche humblement devant lui, veillant, priant, regardant constamment à Jésus, sous la direction et le contrôle de l'Esprit qui est lumière et vie. La fin est proche. Les enfants de la lumière doivent travailler avec un zèle ardent, persévérant, à en amener d'autres à se préparer en vue du grand événement qui est devant nous, afin qu'ils puissent résister à l'ennemi grâce à l'action exercée sur leur cœur par le Saint-Esprit. Sans cesse d'étranges nouveautés surviendront à l'effet de provoquer une excitation malsaine, des réveils religieux et des phénomènes curieux au sein du peuple de Dieu. Que l'on continue d'avancer, les yeux fixés uniquement sur la lumière et la vie du monde. Sachez que tout ce que la parole de Dieu appelle lumière et vérité l'est effectivement, une émanation de la sagesse divine, non une imitation des artifices de Satan. La lumière de la sagesse divine sera comme une lampe au pied de toute âme sincère, ferme, contrite. Le sentiment ne doit pas l'emporter sur le jugement. L'erreur se mêle parfois à la vérité. Des personnes au tempérament excitable acceptent cela et agissent en conséquence. Alors le fanatisme remplace des efforts bien réglés, disciplinés, dirigés par le ciel, pour achever l'œuvre. Il existe un danger, que non seulement des esprits manquants d'équilibre tombent dans le fanatisme, mais encore que des personnes mal intentionnées profitent de l'excitation pour des fins égoïstes. J'adresse un avertissement à nos frères, qu'ils suivent leur conducteur sans chercher à courir en avant du Christ. En un temps comme celui-ci, rien ne doit être laissé au hasard dans notre œuvre. Abstenez-vous d'employer de fortes expressions, propres à faire croire à des esprits manquants d'équilibre qu'ils sont en possession d'une étonnante lumière divine. Celui qui veut apporter un message au monde de la part de Dieu doit garder un parfait contrôle de ses mouvements. Il doit sans cesse se rappeler que le sentier de la présomption côtoie celui de la foi. Si un calme jugement se laisse gagner par l'impulsion et l'émotion, on peut se livrer à des excès de vitesse, même sur la bonne route. Qui court trop vite s'expose à plus d'un danger. Il risque de quitter bientôt la bonne route pour s'engager sur une fausse route. À aucun moment le sentiment ne doit l'emporter sur le jugement. On peut exagérer même dans ce qui est permis, et ce qui ne l'est pas conduit nécessairement dans de mauvais sentiers. Des âmes iront à la ruine, à moins qu'il ne se fasse un travail avec soin, avec zèle, avec bon sens, en restant ferme comme un roc quand il s'agit d'avancer une idée, un principe, une présentation. Obéissance plutôt qu'émotion ou extase. Dans nos rangs, il en est qui risquent de commettre une erreur quant à la réception du Saint-Esprit. Beaucoup voient dans une émotion ou un ravissement la preuve de la présence du Saint-Esprit. On est en danger de ne pas comprendre les sentiments vrais et de perdre de vue la signification des paroles du Christ, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le danger consiste à substituer aux Écritures des inventions originales et des imaginations superstitieuses. Dites à notre peuple, « Ne cherchez pas à apporter quelque chose qui ne soit pas révélé dans la parole. Serrez-vous contre le Christ. » Souvenons-nous que la parole que le Christ nous a commandé de prêcher à toute nation, tribu et langue, et à tout peuple a été confirmée par le Saint-Esprit. C'est là le plan de Dieu pour son œuvre. Le Christ par sa puissance confirme la parole, amenant hommes et femmes à la vérité par la conversion, leur donnant une foi intelligente, les disposant à faire tout ce qu'il leur a commandé. L'agent humain, l'instrument visible, doit simplement prêcher la parole. Le Seigneur Jésus, l'agent invisible, conférera efficacité et puissance à la parole par son Saint-Esprit. Revenir à la prédication d'antan. Nos prédicateurs ont adopté de nouvelles méthodes. On désire suivre l'exemple d'autres églises. La simplicité et l'humilité sont presque totalement ignorées. Les jeunes prédicateurs recherchent l'originalité et tentent d'introduire de nouvelles idées et de nouveaux plans de travail. Certains ont des réunions de réveil, par quoi ils amènent beaucoup de nouveaux membres dans l'église. Mais où sont les vrais convertis quand le moment de l'excitation est passé? On ne voit ni repentance ni confession des péchés. Le pécheur est invité à se confier en Christ et à l'accepter sans égard pour son passé de péché et de rébellion. Le cœur n'est pas brisé. Il n'y a pas de contrition. Ceux que l'on croit convertis ne sont pas tombés sur le roc, le Christ Jésus. Les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament nous montrent la seule voie à suivre. Repentez-vous, repentez-vous, tel était le message que Jean-Baptiste faisait retentir au désert. Le Christ adressait ce message à ses auditeurs, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et les apôtres reçurent l'ordre de prêcher la repentance à tous les hommes. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui ses serviteurs prêchent la vieille doctrine évangélique, douleur du péché, repentance, confession. Il nous faut des sermons à l'ancienne mode, des coutumes à l'ancienne mode, des pères et des mères en Israël à l'ancienne mode. Il faut travailler pour le pécheur avec persévérance, zèle et sagesse jusqu'à ce qu'il reconnaisse son état de péché, qu'il se repentit d'avoir transgressé la loi de Dieu et qu'à la repentance envers Dieu il ajoute la foi au Seigneur Jésus-Christ. Froid formalisme ou fanatisme. Le formalisme, une sagesse mondaine, une prudence mondaine, des règles de conduite mondaines. Plusieurs croiront y voir rien moins que la puissance de Dieu, toutefois si ces choses sont acceptées, elles constitueront un obstacle qui empêchera d'apporter au monde la lumière divine sous forme d'avertissement, de réprimande, de conseil. Avec tout son pouvoir de séduction, Satan s'efforce d'éloigner les hommes du message du troisième ange qui doit être proclamé avec une grande puissance. Si Satan s'aperçoit que le Seigneur bénit son peuple et le prévient contre la séduction, il s'efforcera habilement d'amener d'un côté le fanatisme et de l'autre un froid formalisme, ce qui lui assurera une riche moisson d'âmes. C'est le moment de veiller sans relâche. Veillez, empêchez Satan de faire le moindre pas en avant au milieu de vous. Des dangers nous guettent à droite et à gauche. Il faut s'en garder. Il y aura des personnes inexpérimentées, venues récemment à la foi, qui auront besoin d'être affermies et d'avoir un bon exemple sous les yeux. Quelques-unes feront un mauvais usage de la doctrine de la justification par la foi, la présentant d'une manière unilatérale. D'autres s'empareront d'idées qui ne leur ont pas été présentées correctement et se jetteront à l'extrême opposé, ignorant entièrement les œuvres. Une foi authentique agit toujours par amour. Si vous regardez au calvaire, ce n'est pas afin de tranquilliser votre âme dans la négligence du devoir, ni en vue de vous procurer un sommeil agréable, mais pour créer la foi en Jésus, une foi agissante, qui purifie l'âme du limon de l'égoïsme. Quand nous saisissons le Christ par la foi, notre œuvre ne fait que commencer. Tout homme a des habitudes de corruption et de péché qu'il faut vaincre par des luttes vigoureuses. À chaque âme il est demandé de combattre le combat de la foi. Un vrai disciple du Christ ne saurait se montrer trop adroit en affaires, ni sans cœur et sans sympathie. Il ne peut tenir un langage rude. Il ne peut être vaniteux et plein de lui-même. Il ne saurait être dominateur, ni employer des paroles blessantes, de censure et de condamnation. L'œuvre d'amour est le produit de la foi agissante. La religion de la Bible implique un effort continuel. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il nous faut être zélés pour les bonnes œuvres et y veiller sans cesse. Le véritable témoin l'a dit, « Je connais tes œuvres ». S'il est vrai que nos multiples activités ne nous gagneront pas le salut, il est vrai aussi qu'une foi qui nous unit au Christ aura pour effet de stimuler notre activité. Ceux qui ne trouvent pas le temps de s'occuper de leur âme, de s'examiner chaque jour afin de voir s'ils demeurent dans l'amour de Dieu, et de s'exposer à la lumière divine, trouveront du temps pour écouter les suggestions de Satan, et se conformer à ses plans. Satan s'insinue par des coins qui s'élargissent à mesure qu'il s'enfonce. Les artifices trompeurs de Satan feront leur apparition dans l'œuvre particulière que Dieu accomplit en ce temps-ci. Fausse notion de la bénédiction divine. Beaucoup se posent des questions et sont troublés parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Pour certains, les exercices religieux ne sont guère qu'un passe-temps. Ils se croient grandement bénis dès qu'ils éprouvent une émotion. Il en est qui ne se jugent pas bénis aussi longtemps qu'ils ne sont pas remués et excités. Ce qu'ils recherchent, c'est l'ivresse de l'excitation. Ils supposent que tout est mal chez eux ou que tout va mal chez quelqu'un d'autre s'ils n'obtiennent pas cela. Il ne faut pas donner à penser que seule une religion de nature émotionnelle, frisant le fanatisme, est la religion pure. Sous l'influence d'une telle religion, on s'attend à ce que le prédicateur use toute son énergie spirituelle en prêchant l'Évangile. Il doit faire jaillir en abondance le fort courant de l'eau de la vie. Il doit donner une potion stimulante agréée par l'appétit humain. Il en est qui, à moins que leurs émotions affaiblies ne soient stimulées, pensent pouvoir se montrer négligents et insouciants. Tout est calme, tranquille, sans prétention. L'ennemi se prépare à séduire le monde entier par son pouvoir d'opérer des prodiges. Il ira jusqu'à personnifier des anges de lumière, et Jésus-Christ lui-même. Quiconque enseigne la vérité pour ce temps-ci doit prêcher la parole. Ceux qui se cramponnent à la parole se garderont d'ouvrir toutes grandes les portes à Satan par des déclarations imprudentes concernant prophétie, songe et vision. À des degrés divers de fausses manifestations se sont produites ici et là, depuis le moment où, en 1844, nous attendions la seconde venue du Christ. Il s'en produira toujours davantage. Nous devons nous montrer vigilants, comme de fidèles sentinelles. Plusieurs personnes m'adressent des lettres au sujet de visions qu'elles pensent avoir eues, et qu'elles se croient en devoir de communiquer. Veuille le Seigneur inspirer de la prudence à ses serviteurs. Quand le Seigneur communique sa lumière par des moyens sûrs, il y a toujours de nombreuses contrefaçons. Satan ne manque pas d'entrer chaque fois qu'une porte lui est ouverte. Il donnera des messages où ses propres idées se mêlent à la vérité afin d'induire les âmes en erreur, les attirant vers des êtres humains et vers leur dire, les empêchant ainsi de s'en tenir fermement à un ainsi dit l'Éternel. Tout est quiétude dans les manières d'agir de Dieu avec les siens. Tout est calme et sans prétention pour ceux qui se confient en lui. Il y aura des croyants simples, sincères, zélés, attachés à la Bible, qui ne se contenteront pas de l'écouter mais voudront la mettre en pratique. Ils seront saints d'esprit, zélés, pleins de bon sens, comptant sur Dieu. L'exemple du Christ. Personne ne risque de se jeter dans les extrêmes aussi longtemps que l'on étudie attentivement la parole en humiliant son âme à chaque pas. Le Christ doit demeurer dans le cœur par la foi. Lui, le modèle, restait maître de lui-même. Il marchait dans l'humilité. Il était vraiment digne et patient. Si chacun de nous possède les mêmes traits de caractère, en acceptant la justification par la foi, on ne verra pas d'extrémiste. L'exemple du Christ nous enseigne à tenir toujours étroitement conjoints la loi et l'Évangile, qui sont inséparables. Cultivons le calme et la maîtrise et maintenons-les avec constance. Tel était le caractère du Christ. Nous entendons des expressions véhémentes de certains propagandistes de la religion qui avancent des prétentions téméraires, disant « Je suis saint, je suis sans péché », alors que leur foi n'a pas le moindre fondement. Chez l'auteur de toute vérité nous n'entendons pas de bruyantes protestations de foi, et nous ne voyons pas d'effroyables contorsions physiques. Souvenez-vous quand lui demeurait corporellement toute la plénitude de la divinité. Si le Christ demeure dans nos cœurs par la foi, nous méditerons sur sa conduite et par là nous nous efforcerons d'être comme Jésus, pur, pacifique, sans souillure. Nous révélerons le Christ dans nos caractères. Non contents de recevoir et d'absorber la lumière, nous voudrons la diffuser. Nous comprendrons toujours mieux ce que Jésus est pour nous. L'harmonie, l'amabilité et la bienveillance qui ont caractérisé la vie de Jésus-Christ resplendiront dans nos propres vies. Le désir d'un changement dans notre expérience religieuse. Au lieu de vivre dans l'attente de quelque occasion excitante, il nous faut profiter sagement des occasions présentes, faisant ce qui doit être fait pour sauver les âmes. Au lieu d'épuiser nos facultés mentales en spéculant sur les temps et les moments dont le Seigneur s'est réservé la connaissance, et qu'il a refusé de faire connaître aux hommes, soumettons-nous à l'influence du Saint-Esprit, accomplissons les devoirs du moment, en donnant le pain de vie, sans mélange d'opinions humaines, aux âmes qui périssent sans la vérité. Nous courons sans cesse le danger de nous élever au-dessus de la simplicité de l'Évangile. Certains ont un intense désir d'étonner le monde par quelque chose d'original, qui jettera les gens dans une sorte d'extase spirituelle, et apportera un ordre nouveau dans nos expériences. Certes, il y a lieu de souhaiter un changement dans notre expérience actuelle, car l'on ne voit pas le caractère sacré de la vérité présente comme il le faudrait. Mais le changement nécessaire, c'est celui du cœur. On ne peut l'obtenir qu'en recherchant personnellement Dieu pour obtenir sa bénédiction, en le suppliant de nous accorder sa puissance, en demandant avec ferveur que sa grâce vienne sur nous, et que nos caractères soient transformés. Voilà le changement dont nous avons besoin aujourd'hui. En vue d'une telle expérience, nous devons déployer une énergie persévérante et manifester une ardeur sincère. Pas de bizarrerie, pas d'excentricité. Qu'il n'y ait ni bizarrerie ni excentricité dans les démarches de ceux qui enseignent la parole de vérité, de telles choses ne font qu'affaiblir l'impression que devrait produire la parole. Restons sur nos gardes, car Satan est décidé, si possible, à mêler son influence délétère à nos services religieux. Qu'il n'y ait pas d'exhibition théâtrale, ce qui ne contribuerait en rien à affermir la confiance en la parole de Dieu. Cela ne ferait qu'attirer l'attention sur l'instrument humain. La parole de Dieu ne doit pas être contaminée par des théories fallacieuses. Au milieu de cris confus voici, le Christ est ici, voici, il est là, un message spécial, un message de vérité particulièrement adapté aux besoins de notre temps, sera prêché, qu'il faudra recevoir et d'après lequel il faudra agir. C'est la vérité qui est efficace, non des fantaisies. La vérité éternelle de la parole se préservera de toute erreur séduisante et de toute interprétation spirite, exempte de représentations fantasques et trompeuses. On attirera l'attention du peuple de Dieu sur des faussetés, mais la vérité doit être présentée sous son vêtement magnifique et pur. La parole, si précieuse en raison de son influence sainte et ennoblissante, ne doit pas être abaissée au niveau de choses communes, ordinaires. Elle doit résister toujours aux contaminations des erreurs par lesquelles Satan voudrait, s'il était possible, séduire même les élus. Puisse le peuple de Dieu se comporter de telle manière que le monde reconnaisse les adventistes du septième jour comme un peuple intelligent et réfléchi, dont la foi repose sur un fondement plus sûr que la confusion d'un asile d'aliénés. Au monde affamé, donnons le pain de vie plutôt qu'une pierre.